Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Une multitude de sujets au menu du forum de la presse de ce vendredi avec, entre autres, la réunion ordinaire du comité d'état-major opérationnel le conjoint qui a démarré aujourd'hui même ici à Bamako. Les affrontements intercommunautaires qui viennent de faire une trentaine de morts à Tenengou dans la région de Mopti, les différents mouvements de grève en cours et la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Comme invité, nous recevons quatre journalistes, Benjamin Sagan. Gala, Benjamin Sangala, c'est bien cela. Il est donc du journal Fraternité Africaine, Mohamedou Kane de Radio Kledou, Amandengue Sagara, cette fois-ci, lui il est du journal Soloni, et nous attendons des moments à l'autre, Célia d'Almeida qui est donc du journal du Mali. Présentation, Seydou Fomba.
Le grand dialogue.
Auditrice, auditeur, bienvenue. C'est parti depuis ce matin pour les travaux de la réunion ordinaire du Conseil des chefs d'état-major du CEMOC qui se met à Bamako. Parmi les questions qui seront abordées, le renseignement militaire, que c'est en vue donc de lutter de façon plus efficace contre le terrorisme. Ce genre de rencontre est certainement utile par les temps qui courent. Non, Mamadou Kane de Radio Kledou.
Bonsoir tout le monde. C'est vrai que c'est toujours important. La vaste zone du Sahel qui connaît un sérieux problème lié notamment au terrorisme. Donc cette rencontre de Bamako qui regroupe les chefs d'État majors du Mali, du Niger, de l'Algérie, de la Mauritanie vient à point nommé parce que vous savez, compte tenu de la porosité de nos frontières, c'est vraiment opportun. Mais cependant, j'ai quelques inquiétudes, notamment sur le fait que le Mali, c'est quand même le ventre mou de cette lutte contre le terrorisme. L'Algérie, la Mauritanie, El Mourabitou, le groupe El Mourabitou.
J'ai l'impression quand même qu'on commence à faire des progrès, non? On reste le ventre mou.
Des progrès. Je ne sais pas. C'est que sûr, aujourd'hui, le nord du Mali reste confronté à d'énormes difficultés. L'Algérie, aujourd'hui, s'est presque débarrassée du terrorisme. En Mauritanie, on n'a pas eu encore écho des attaques terroristes dans ces pays. Le Niger, je sais que le budget de la défense a presque été doublé. Mais voilà, le ventre mou, c'est vraiment le Mali. Et aujourd'hui, cette rencontre vient à point nommé, comme je le dis. Mais vraiment, il faut que les différents chefs d'état-major conjuguent leurs efforts pour assainir nos frontières. Parce qu'il s'agit de planifier, il s'agit vraiment de lutter contre tous ces petits bandits qui font l'objet de toutes sortes de trafic d'armes, de drogue, etc. Donc c'est important, mais il faut être très, très vigilant encore une fois de plus et aller de l'avant, quoi, ne pas rester dans ces simples cadres de réunions à Bamako ou à Niamey. C'est important.
À présent, nous allons donner la parole à Amandengue Sagara du journal Le Soloni.
Oui, j'aborderai pratiquement dans le même sens. Je crois que la rencontre tombe bien. Et c'est une bonne chose. On ne peut que saluer de telles rencontres du moment où nous voyons que ces pays ont des frontières et ces pays ont presque les mêmes réalités. Et je pense que cette rencontre pourra leur permettre de voir comment encore renforcer la sécurité dans cette partie-là de l'Afrique. Et surtout, nous l'avons vu ces derniers mois où, en tout cas, l'armée est en train de faire du progrès, où des arrestations sont en train de paralyser en quelque sorte le terrorisme. Et je crois que cette rencontre, on peut entendre beaucoup de choses de cette rencontre, surtout, selon moi, la sécurisation, n'est-ce pas, des différentes frontières qui peuvent être un pas décisif dans la lutte contre le terrorisme.
Célia d'Almeida du Journal du Mali vient de nous rejoindre. Bonsoir Célia.
Bonsoir.
Alors, la première question, vous allez tout de suite la prendre. Elle concerne donc cette rencontre des chefs d'état-major ici à Bamako. Les travaux ont donc démarré aujourd'hui. Selon vous, c'est une rencontre bien importante vu les réalités du jour?
Bon, évidemment, puisque de toutes les façons, la situation sur le terrain ne va pas dans le sens que tous souhaitent. Donc, toutes les rencontres pour continuer de réfléchir ensemble, c'est ça le plus important. Continuer de réfléchir ensemble, continuer de voir ensemble ce qu'on peut faire pour réduire. Parce que cette menace-là, on ne peut pas l'annihiler d'un claquement de doigts. Donc réduire au maximum la menace terroriste et toutes les autres menaces auxquelles nos pays sont confrontés. Mamadou Kane l'a dit, les trafics en tout genre, la prolifération des armes qui est à la base de conflits qu'on est en train de vivre au centre du Mali en ce moment. Donc je pense que c'est une rencontre effectivement importante. Maintenant, il ne faut pas qu'elle soit une rencontre de plus, il faut qu'elle apporte réellement des solutions, parce que c'est cela. Pour l'instant, nous sommes beaucoup dans les discours et très peu dans l'action. On a salué évidemment la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire après les attaques de Bassam, et j'espère que cette coopération-là va s'étendre à tous les autres pays de la sous-région, le Niger, la Mauritanie, qui sont des pays effectivement où les choses se passent autrement que chez nous. Donc des expériences peut-être positives, des expériences qui marchent à partager et à dupliquer.
Entre autres sujets, les chefs d'état-major vont beaucoup parler quand même de l'enseignement militaire. Le renseignement militaire, c'est donc peut-être le maillon faible de la lutte antiterroriste dans la zone.
Je pense que oui, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'aspect infrastructurel, l'aspect matériel. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, 80% d'une guerre est gagnée avec les informations. Et nous, malheureusement, nous n'avons pas l'armada technologique que ceux qui sont en face de nous possèdent. Hein. Ils ont des satellites, d'après ce que j'ai entendu dire, qui leur permettent, comme on voit dans les films américains, là, de suivre ce qui se passe. Et je pense que nos armées ont besoin, au jour d'aujourd'hui, peut-être de mutualiser les efforts, vu que ce sont des investissements qui sont colossaux. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, par exemple, peuvent faire des investissements communs pour avoir des hélicoptères ensemble, pour avoir des drones ensemble, pour avoir accès à certains satellites militaires ensemble. Je pense que ça, c'est un côté de la chose. Le deuxième volet, c'est l'aspect... participation des populations, parce que ça, c'est extrêmement important. Je pense à chaque fois que des pas ont été faits, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont montré quelqu'un ou une situation qui était pas très normale. Donc je pense que il y a un travail aussi d'information, de sensibilisation, voire de formation du public à faire pour que justement cette question de renseignement devienne un atout plutôt que d'être un handicap, comme c'est le cas aujourd'hui.
Benjamin Sangala de Fraternité Africaine, que peut-on attendre d'une telle rencontre?
Bonsoir à tout le monde. En fait, j'allais préciser, la rencontre se tient depuis hier, 5 ou 6. Donc, on sait qu'on peut retenir de ce genre de rencontre, c'est qu'il faut quand même dire aujourd'hui, ce qui est installé, c'est la coordination des actions. Face à ces flux, fortement, il faut coordonner les actions et puis se concentrer de temps en temps. Et également, il faut dire que le tourisme n'a pas de frontières. Donc, forcément, les États sont obligés vraiment de travailler ensemble. Et bien, tout ce qu'on attend de l'aspect positif et voir dans les futurs délais que ces flux puissent vraiment baisser. Comme Célia vient de le dire, c'est des choses qu'on peut tout de suite les combattre parce que ça n'a pas de visage également. Mais ce qu'on peut quand même espérer, dans un bref délai, bon, peut-être avec peut-être un agenda bien établi, qu'on puisse vraiment avoir des moyens à combattre ces terroristes.
Nous allons rappeler aux auditeurs que la cérémonie d'ouverture des travaux de cette réunion ordinaire du Conseil des chefs d'état-major de CEMOC, c'était effectivement hier. Nous allons certainement aborder un second sujet, un sujet bien grave. Il s'agit des conflits intercommunautaires. Vous le savez autant que moi, une trentaine de personnes ont trouvé la mort dans des affrontements entre deux communautés à Tenenkou. Ce qui est arrivé dans cette localité est un peu plus grave. Que faire pour que ce genre de tragédie ne se produisent plus jamais? À vous, en première position, Mohamadou Kane de Radio Kédou, à vous de répondre à la question.
D'abord, on va s'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de ce conflit. Ce qui est regrettable, c'est les autorités maliennes aujourd'hui. Ils sont là-bas, une délégation gouvernementale et parlementaire. Ça fait toujours les médecins après la mort. Et là-dessus, il est temps vraiment que nos autorités s'impliquent davantage dans le règlement de ce conflit, parce que ça a débuté il y a longtemps. L'alerte a été lancée depuis combien de temps? Il a fallu qu'il y ait mort d'homme pour qu'on intervienne. Moi, j'ai dit non, ça c'est inadmissible dans un pays comme le Mali. C'est nous, voilà, on ne sait jamais de nous targuer pour dire oui, c'est les pays du cousinage, etc. Comment les Peuls et les Bamana peuvent en venir là? C'est extrêmement grave pour les Maliens aujourd'hui. On est confronté à ces problèmes liés au terrorisme. Tous les jours que je fais, il y a des armes qui crépitent, c'est des grenades, etc. Et ces conflits perdus dans notre pays depuis des années quand même, les conflits intercommunautaires entre ces populations, soit c'est pour du bétail, soit c'est pour des portions de terre, etc. Donc moi j'en veux beaucoup aux autorités locales d'abord, c'est très important, ils n'ont pas suffisamment joué leur rôle pour atténuer cette situation. C'est vrai que c'est déplorable pour Ténénkou, mais il y a d'autres Ténénkou au Mali. Et aujourd'hui, ils sont sur place pour s'enquérir des réalités et calmer les esprits. Mais il faut éteindre également les autres foyers de tension qui sont susceptibles, voilà, de faire la une des journaux demain, malheureusement pour nous. Donc vraiment, notre pays ne mérite pas ça aujourd'hui. J'en veux beaucoup à nos préfets qui savaient que ça n'allait pas entre ces communautés, qui savaient qu'il y avait anguille sous roche et que ça allait péter à un moment ou à un autre. Maintenant, c'est arrivé. Moi, je dis plus jamais ça. Plus jamais ça. Que les autorités, que Bamako s'implique pleinement. Désormais, il ne faut pas qu'on se limite juste au déplacement des députés, des ministres, pour aller voir les familles, présenter les condoléances de l'État. C'est déplorable. Il faut qu'on avance sur ces dossiers-là, qu'on essaie de régler tous les petits dossiers voilà, dont on ne parle pas assez pour éviter l'embrasement. Voilà, ça c'est vraiment mon point de vue là-dessus. Mais
Sagara du journal Le Soulouni, c'est vrai, comme l'a dit Mamadou Kane, la tension était bien là, elle était perceptible avant les affrontements. Alors dites-nous maintenant, est-ce qu'il était possible d'anticiper sur ce qui vient d'arriver, ce qui vient de se passer à Ténénkou?
Oui, à mon avis, c'était possible. Il fallait juste amener les différentes parties autour d'une table et trouver un terrain d'entente. Si le problème se voyait venir, je crois que rien n'empêchait les autorités de prendre l'avance et faire asseoir les différentes parties et procéder à des négociations. Mais comme il a dit, moi j'accuserais directement les élus locaux. Et ils sont sur place, c'est à eux de voir ce qui ne va pas et prendre des mesures. Et comme il a dit, malheureusement, ce n'est pas tenu compte. Ce genre d'affrontements intercommunautaires sont quand même quasi fréquents. Dernièrement, c'était au pays d'Ogon. Bon, ça passait presque inaperçu, mais il y a beaucoup de morts. Ou pour une question de terre, loupin de terre, où des gens se sont mis à se macheter, à se tirer dessus. Mais voilà, on dit que c'est le Mali, en fait, fait face à cette réalité qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Il faut que les responsables prennent vraiment le devant des choses et que de telles choses ne se reproduisent plus. Comme il a dit, voilà, nous sommes confrontés à l'attaque terroriste, nous sommes confrontés à l'insécurité. S'il faut que entre peuples encore il y ait des affrontements, je crois que c'est grave. Ça n'arrange pas. Ça ne peut que faciliter le terrain à d'autres personnes qui ne sont pas de bonne volonté, qui voudraient peut-être voir le Mali s'enfoncer davantage. Je parlerai clairement des terroristes aujourd'hui qui est un mal commun. Donc, au sein d'une population, vraiment, ces crises ne doivent pas exister de nos jours. Surtout que ce ne sont même pas des raisons aussi solides que ça. Peut-être que des terrains de 20 mètres, c'est regrettable. En tout cas, c'est regrettable. Il faut que les autorités prennent les responsabilités pour que de telles situations ne se reproduisent pas.
Célia Dalmira du journal du Mali. Le journal du Mali.
Mon inquiétude est à plusieurs niveaux. Le premier niveau est pourquoi. Mahamadou Kane et le collègue viennent de le dire tout à l'heure, on voyait venir cette situation-là. C'est des conflits intercommunautaires, il y en a toujours eu au Mali. Et pourquoi attendons-nous toujours que la situation se passe pour réagir? N'est-il pas temps de s'attaquer aux causes profondes de ces accès de fièvre? Et essayer, nous, on est justement dans un pays dont les ressources sociales nous permettent de nous asseoir et de discuter quand ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place des cadres
Moi, je ne vais même pas au niveau des élus locaux, hein, parce que c'est des gens, nous tous, on sait pourquoi ils sont là. Mais les populations elles-mêmes, et c'est en ça, le journal du Mali, si vous l'avez lu cette semaine, l'éditorial le dit, c'est ça la preuve que le Mali a changé. Parce qu'auparavant, nous avions la capacité de nous asseoir entre Maliens, de nous dire, bon, il y a un problème. Le chef de village, le griot, tout le monde se mettait là dans l'affaire pour que le problème n'aille pas à la fonte. Mais quand ça arrivait à ce niveau-là, c'est que ça avait excédé et ce n'était pas pour des lopins de terre de 20 mètres sur 20 mètres. Deuxième aspect de la chose, le comment. Voici des Maliens qui se tirent dessus à l'arme de guerre. C'est extrêmement inquiétant.
On a entendu parler d'AK-47.
Des peuls qui ont des AK-47, mon Dieu. Est-ce que ce sont des peuls? Voilà ma deuxième question. Est-ce que réellement, ce qu'on nous présente comme étant un conflit intercommunautaire n'est pas la partie émergée de quelque chose qui est en train de nous arriver?
Vous craignez qu'il y ait autre chose derrière?
Mais écoutez, cette région est polluée aujourd'hui par le Front de Libération du Massina, disons les choses telles qu'elles sont.
Bien sûr.
Et que des gens... des conflits entre Bambara et Peul, on les voit au moment des récoltes. Quand les bœufs rentrent dans les champs pour aller manger et puis les cultivateurs se fâchent. Mais ce n'est pas le moment. On est en pleine saison chaude, il n'y a pas de champ, il n'y a rien du tout. Mais pourquoi? Alors il y a de vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Il faut qu'on dépasse l'émotion de bon, c'est vrai, c'est normal, les Maliens meurent. C'est normal qu'on réagisse. Mais il faut qu'on dépasse le aller présenter les condoléances, donner 100 000 francs à chaque famille et faire dos revenir sur Bamako et s'attaquer réellement, essayer de comprendre ce qui se passe dans cette zone. Parce qu'autrement, nous avons... Bref.
Alors, nous nous tournons du côté de Benjamin Sangala, donc de Fraternité africaine.
Je crois que dans ce problème, il y a ce qu'on a un peu occulté, c'est la prévention des conflits. Il faut quand même que les autorités, en tout cas locales, et la société civile, et certaines organisations, en tout cas paysannes, soient impliquées, soient en tout cas formées à la prévention des conflits. Également, c'est des choses très fréquentes. Chaque année, nous voyons pertinemment, derrière, comme l'autre l'a dit, au pays de Gaulle, un peu partout. Et cette journée également, nous avons un sérieux problème foncier. Et chaque fois que c'est le foncier qui cause le problème, il faut vraiment aller plus loin. Et pratiquement, c'est dans l'ensemble du pays. Donc, peut-être aujourd'hui, c'est Ténéco, demain, qui sait, peut-être une autre localité de Kayes ou de Ségou. Mais ce qu'on peut reprocher aux autorités maliennes, c'est qu'ils forment les autorités locales, la société civile et coutumier également à la prévention des conflits et après à la gestion post-conflit aussi.
Rapidement, oui.
Justement, on a aussi tellement vidé de leur poids les autorités traditionnelles. Mm-hmm. C'est ça aussi. Parce qu'auparavant, un chef traditionnel, quand il disait non, tout le monde s'alignait derrière ce qu'il dit. Malheureusement, aujourd'hui, ces autorités traditionnelles n'ont plus le poids social qu'elles avaient, ce qui fait qu'elles n'arrivent pas, quand il y a des situations comme ça, à vraiment peser dans la balance pour désamorcer les conflits. Tout le monde se retourne vers le préfet, vers le maire, qui ne sont pas forcément aussi capables de gérer les situations.
Souvent, je te fais la spéculation, certainement, qui n'a pas encore atteint certains zones, mais qui également aussi déjà prend garde.
Studio Tamani, la suite de cette émission dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Quatre journalistes dans ce studio pour commenter, échanger sur ce qui aura constitué l'essentiel de l'actualité de la semaine. Ce sont Célia d'Almeida du journal du Mali, Benjamin Sangala de Fraternité africaine, Mohamedou Kane de Radio Kledou et Amadengue Sagara du journal Soloni. Alors nous allons aborder un sujet qui malheureusement se rapporte également à la violence. Il s'agit de l'attaque d'un camion d'une structure humanitaire au nord, pas plus tard qu'hier. On parlait d'un véhicule d'une ONG qui a été enlevé. Vous savez que pour cette raison, les structures qui sont les ONG et autres ont décidé d'une suspension. Alors, je crois qu'il y a à craindre avec cette suspension, Mamadou Kane.
Bon, il faut dire qu'on est habitué à cette situation. C'est la récurrence. Moi, je m'appelle l'année dernière, j'étais là pour parler du même sujet avec les CICR. Le problème, c'est que les gens qui mènent ces attaques, On dit que les parties signataires doivent respecter les organisations humanitaires qui interviennent sur le terrain, leur faciliter le travail. Et les parties non signataires, ces individus non armés qui n'ont que faire de ces accords, pourquoi on ne les mentionne pas également? Moi, c'est ça mon problème aujourd'hui. Un véhicule d'une organisation humanitaire, vous pensez que ce jeune drogué, il a la faculté de savoir que oui, ça c'est le CICR, non, je ne dois pas, non, je suis désolé. Aujourd'hui, le problème au nord du Mali, il n'y a pas que la CMA, il n'y a pas que la plateforme, il y a d'autres, il y a Dagali qui sévit à Kidal, il y a d'autres terroristes qui sont dans la zone, voilà, qui à tout moment sont prêts à attaquer. Donc aujourd'hui, quand on attaque ces humanitaires, c'est vrai que dans la communauté, il y a les mois, on dit voilà, il faut cesser les activités. Quelques principes de ces acteurs humanitaires, c'est quoi? C'est l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, l'universalité. Mais ces gens, je reviens là-dessus encore une fois de plus, n'ont que faire de ces notions-là. Donc, vraiment, aujourd'hui, le problème, il est là. Est-ce que les parties signataires doivent respecter toutes ces organisations qui sont sur le terrain? Oui. Et les parties non signataires, la question? Non. Ce n'est pas leur problème. Et que la situation s'enlise ou pas, ce n'est pas leur problème. Pourvu qu'ils gagnent, je ne sais pas, à travers un enlèvement. La dernière fois, c'était quelques travers du CICR. On ne sait même pas dans quelles conditions ils ont été libérés. On nous dit toujours que non, il n'y a pas eu de versement des rançons, etc. Le problème, il est là aujourd'hui. Et c'est très sérieux parce que nous sommes dans une zone de non-droit. Je le disais la dernière fois. Et on ne sait pas qui est qui. Tout le monde est capable de tout aujourd'hui. Dans cette vaste étendue du nord du Mali, qui fait quand même 800 000 km². C'est difficile, ce problème. C'est extrêmement difficile et c'est préoccupant. Le problème, c'est que il n'y a aucune autorité dans ces endroits-là pour veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Et tant qu'on n'en arrive pas là, le chemin, il est là et ce sera très, très long pour le Mali, pour ses partenaires, quoi.
Amandegué Sagara, du journal Soulani.
Oui, je crois que la question, elle est importante. Et la preuve, chaque fois que je suis invité ici, on aborde ce thème-là. Ça veut dire que réellement, ça ne va pas. Et c'est la même chose qu'on a dit ici. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités. Moi, je l'ai dit et je vais continuer à le dire jusqu'à ce qu'on aille au DDR. Ces genre de cas ne vont pas finir. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, l'a dit. Le berger a son arme. Le civil a son arme. Chacun fait sa loi. Chacun contrôle un petit territoire. Mais ces genres d'attaques vont continuer. Il va falloir qu'on cantonne les différents groupes armés et qu'on désarme les gens et qu'on sache qui est qui. Et après cela, je pense qu'on peut contrôler les groupes isolés. Vous savez, permettez-moi de raconter cette histoire. J'ai un ami qui vient d'arriver d'Algérie. Le monsieur passe 2 ans là-bas, il travaille. Pour des raisons de sécurité, il m'a dit qu'ils font des achats. Arrivé ici, le revente. En venant, il traverse l'Algérie sans problème. C'est sur le territoire malien qu'ils ont été agressés par des groupes rebelles. Il n'a pas menti, il n'a pas caché, il dit que c'est des Touaregs, habillés en treillis. 6 jeunes, on les a fait vider le camion. Ils ont tout emporté. C'est pour dire que la population au nord souffre. Il faut qu'on attaque un convoi humanitaire. Il faut qu'on s'attaque à une position de l'aménagement. Il faut qu'on s'attaque à un bâtiment public pour qu'on soulève les débats. Sinon, au nord, c'est la galère, permettez-moi de dire comme ça. C'est la souffrance. Et il faut que l'État se lève pour sécuriser la vie de sa population. C'est comme ça, malheureusement, au Mali. Si on ne s'attaque pas à un gros pion, on n'en parle pas. Sinon, ce genre d'attaque, c'est quasi quotidien. Et il faut vraiment que, comme je le disais, l'État arrive à sécuriser ses frontières.
Célia Dalméda, du journal du Mali.
Oui, c'est une situation récurrente, comme les confrères viennent de le dire. C'est dans toutes les zones de conflit, hein, ce n'est pas qu'au Mali. Hein, ça arrive en Somalie, ça arrive au Soudan, ça arrive un peu partout. Parce que ce sont il y a des bandes d'individus qui vivent de trafic, qui vivent d'argent facile et qui ont besoin de faire des razzias de temps en temps pour financer leurs activités. Je crois que c'est ça, la quête de véhicules, de gros véhicules. Ça, on attaque les convois humanitaires pour voler les médicaments, pour voler l'eau, pour voler, on vole tout. Voilà. Donc je pense que tant que cette situation ne sera pas complètement stabilisée, je pense qu'on va avoir des épisodes comme celui-là. Je ne suis même pas très d'accord avec Amadégué, c'est ça, par rapport au fait que la DDR, le processus DDR puisse mettre fin à cela, parce que quoi qu'on dise, hein, il y en a qui n'ont pas intérêt, qui ne vont pas rentrer dans ce processus-là et qui vont continuer de garder leurs armes et qui vont continuer d'attaquer les gens, qui vont continuer d'enlever les gens. Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il est impératif que cette zone soit sécurisée et soit sécurisée par l'armée malienne. Parce qu'elle connaît le terrain, parce qu'elle connaît les populations, parce qu'elle connaît les réalités, parce qu'elle a le mandat pour le faire, ce qui n'est pas le mandat de la MINUSMA, c'est clair, qui n'est pas le mandat de Barkhane, c'est clair, on nous l'a assez répété. Et l'armée malienne a le monopole de la violence pour sécuriser sa population et son territoire.
Sauf que l'armée n'a pas de pouvoir. Non.
Mais justement, il faut maintenant qu'on y aille. C'est pour ça que j'abonde dans votre sens qu'il est temps maintenant que justement on a un certain nombre d'acquis. Hein? On est arrivé à un certain niveau dans la mise en œuvre de l'accord. On est en train de parler de la réinstallation des autorités au nord. Il est impératif que dès que les autorités sont installées, que l'armée les suive. Et c'est à ce moment-là qu'on saura si nous sommes sur la bonne voie ou pas.
Je crois qu'on va demander à Benjamin Sangala de Fraternité Africaine de trancher. Il sera un parcel gesteur.
Ah non, on est sur la même longueur.
Je ne vais peut-être pas trancher. À la suite de ce lien, je crois que l'armée doit les précéder avant que l'administration de l'armée puisse voir qu'elle les précéder. Ah ouais. Ce n'est pas le suivi. Mais par rapport à l'attaque de camions humanitaires, c'est quoi? C'est que moi, je crois que de plus en plus, les groupes armés doivent clarifier leur position. Hein. Et également, les groupes armés ne maîtrisent pas également leurs éléments. Ça arrive, ils ne les maîtrisent pas. Aujourd'hui, bon, nous sommes dans les rangs, demain, le soir, bon, on s'entribane ou on s'habille en autre, puis pour aller braquer tel ou tel camion. Deuxièmement aussi, que les organisations internationales ou les actions humanitaires soient en coordination, fassent les actions et de façon concertée, que tel ne se lève pas pour aller seul sur un terrain où on sait vraiment que tout est vraiment. Nous sommes en insécurité totale. Peut-être qu'ils peuvent vraiment. De façon concertée et puis avec toutes les organisations faire en tout cas le chemin humanitaire, mais de façon individuelle, c'est là vraiment jusqu'à le terrain n'est pas aussi paisible pour le moment.
Visiteurs, voilà. 45 dans moins de 2 minutes, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
À présent, nous allons aborder un autre problème. Vous l'avez constaté, certainement, il y a quand même assez de mouvements de grève, le CINEV en grève, la CSTM aussi. Alors, ça ne semble pas du tout aller sur le front social. Pourquoi, selon vous, Mamadou Kane, de Radio Credo?
Mon pays va mal, comme le dit Tikendja, et sur tous les fronts, le pays va très mal. Je commencerai par la CSTM, qui, je crois, est arrivé à un niveau, comment on appelle ça, c'est le point du non-retour presque avec les autorités maliennes. Le 1er mai, la CSTM a organisé un meeting dans ses locaux. Le symbole est très fort. C'est pour dire on est mécontent, la malgouvernance, la restriction des libertés syndicales. Déjà sur les revendications, je crois qu'il y a 21 des 33 points qui ont été satisfaits par l'État. C'est là où il y a le blocage, quand l'État dit qu'il n'y a pas d'argent et que les syndicats rechignent à dire que non, ce n'est pas possible. Et pourtant, on voit toutes ces réalisations, et pourtant, il y a tous ces détournements, etc. Moi, je pense que le problème ici au Mali, c'est la malgouvernance. Clairement. Pourquoi? Pourquoi la CSTM met en avant la malgouvernance? Parce qu'ils se disent qu'il y a trop de scandales dans ces pays pour qu'on ne puisse pas régler leurs problèmes, quoi. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui, clairement. Amion Guindo, quand il parle, je pense que le premier argument qu'il met en avant, c'est cela. Donc aujourd'hui, pour les SNEB, les syndicats de l'enseignement des bases, c'est le même problème des sous qui se pose et l'État n'a pas d'argent. Soyons honnêtes, malgré tous les problèmes.
Qui ne prend pas des engagements s'il n'a pas d'argent.
Oui, les engagements, bon, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, ce que je déplore dans ces pays, c'est qu'on est dans une période trouble, vraiment trouble, sur tous les fronts. Ça bouillonne partout. Ça bouillonne partout. Et la malgouvernance qui sévit. Qui sévit, qui est dénoncée par certains syndicats, qui est dénoncée par certaines organisations nationales ou internationales. Donc, tout ceci sont des motifs pour ces organisations, pour ces syndicats, pour finalement dire non, on ne va pas lever le moteur de grève. Non, on va marcher. La CSTM, la preuve, va marcher le 12 mai. Voilà. Donc, le blocage est partout, est total. Donc, aujourd'hui, aux autorités, vraiment, de prendre toutes les responsabilités, surtout dans les dialogues. C'est bien de communiquer avec les autres. Je pense que la ministre du Travail, son seul problème avec la CSTM, je crois que c'est ses côtés. Donc, dorénavant, qu'on essaie de s'asseoir toute la table, de tomber d'accord. Comme on le dit, nous sommes des Maliens, vraiment. Au Mali, on a cette culture-là. La grande sœur Célia l'a dit, on a cette culture, vraiment, par rapport aux approches, on essaie de se comprendre, tomber d'accord sur des terrains d'entente, c'est très important. Mais les Maliens, c'est pas « Non, je t'écoute pas, non, je suis pas d'accord avec toi, tu mens. » Non, franchement. On a vraiment atteint des sommets maintenant. Je sais pas si c'est la crise qui a fait ça à notre pays, les Mali, ces beaux pays-là, on a perdu presque toutes nos valeurs. Avant, on ne voyait pas ça au Mali. Aujourd'hui, c'est le cas. Et on doit se demander, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Moi, je pense que c'est les gens qui ont changé. Nous avons changé. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes devenus arrogants. Nous sommes devenus hautains. Chacun, voilà, se morfond dans sa petite bulle. Non, je ne t'écoute pas. Non, tu n'es pas plus beau que moi. Il faut qu'on évite ces choses-là. Il faut qu'on aille de l'avant. C'est très important.
Amandegué Sagara du journal Solon.
Oui, je crois que les réclamations, les revendications sont bien légitimes. Mais je crois que l'autorité malienne est en train de faire son possible. Et quand je prends l'enseignement, 5 ans en arrière, c'était pas comme ça. Il y a eu beaucoup d'avancées, il faut le reconnaître. SNEB ne peut pas nier. Les indices grimpent et les enseignants sont de plus en plus dans des conditions. Je sais, il y a beaucoup à faire. Je suis aussi enseignant. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Il ne faut pas que les syndicats se mettent toujours aussi à mettre la pression. C'est comme je le disais, tout travail a le droit de revendiquer. Mais qu'on ne prenne pas des revendications pour paralyser le pays. Qu'on ne prenne pas des revendications pour punir un régime. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on est en train de partir. On veut montrer aux yeux du monde que voilà, ça ne va pas. C'est la paralysie. Mal gouvernance. Quand on voit les discours, c'est un peu ça, un bras de fer avec le gouvernement. Le gouvernement, c'est qui? Je crois que chacun a sa part de responsabilité. Je le disais, je suis en train d'écrire là-dessus pour le prochain numéro. Il ne faut pas toujours réclamer, mais il faut être efficace sur le terrain. Aujourd'hui, vous partez dans les services publics. Ce n'est pas toujours beau. Hein? Il y a beaucoup de choses à faire. Ils ont aussi des défis à relever. Et je m'arrête là pour ne pas...
Célia Dalméda.
Je prends la balle au bon pour dire justement, quand on réclame, il faut en échange faire ce qu'on doit faire. Et je me suis amusée à écrire aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'on veut, qu'on peut, qu'on doit. Et c'est vrai, c'est ça le Mali. Tout le monde, avec sa petite parcelle de pouvoir, pense que, voilà, moi aujourd'hui, Nebessé, non marqué. Point barre. On ne se préoccupe même pas du résultat. On ne se préoccupe pas des conséquences. Au jour d'aujourd'hui, en ce qui concerne les enseignants, on ne se préoccupe pas de l'avenir des enfants. Je suis désolée. Nos gosses sont à la maison depuis des semaines et des semaines. Nous, à la fin de l'année, on va payer la scolarité entière. Hein? Et puis, nos enfants vont avoir des résultats catastrophiques, ils vont revenir avec une année perdue, et puis nous, on l'aura dans l'os. Et je pense que ça suffit. Ça suffit. On est tous dans ce pays, on souffre tous à la même enseigne. On souffre tous à la même enseigne. Et je pense que quand un pays est dans une situation difficile, c'est à tous ses enfants de se lever et de montrer comme un seul homme qu'ils sont derrière, je ne dis même pas derrière les autorités, hein, mais derrière des valeurs communes, derrière des intérêts communs. pour que le pays puisse avancer. Si chaque corporation se lève pour dire « oui, moi je défends mon pain, mais où allons-nous ? » Demain, les médecins vont se lever, ils vont s'asseoir à la maison, ils vont dire « on ne va pas travailler. » Et qu'est-ce qu'on va faire ? Les enseignants qui ont grévé hier vont dire « oui, pourquoi les médecins grèvent ? C'est notre vie qui en dépend. » Ah bon ? L'éducation aussi, c'est notre vie. Donc je pense qu'il est important que chacun laisse son ego. Au jour d'aujourd'hui, c'est le sentiment que j'ai. Il est vrai qu'il y a des problèmes, Amadegui l'a dit. Il y a des problèmes. Et vous allez sur la Lune, s'il y avait des êtres humains là-bas, ils en auraient. Il y a des problèmes. Maintenant, il est important que nous sachions faire la part des choses, que nous sachions à quel moment ça c'est possible et à quel moment ça ne l'est pas. Et que nos autorités aussi montrent leur bonne volonté en démontrant que bon, ça c'est faisable. C'est faisable dans 3 mois, c'est faisable dans 6 mois, c'est faisable dans 1 an. Au lieu de dire oui, on va faire, et puis après ne pas pouvoir le faire, alors qu'ils savaient dès le départ qu'ils n'allaient pas pouvoir le faire. Ça aussi, il faut que chacun de nous, qu'il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour que la mauvaise foi aujourd'hui est la chose la mieux partagée au Mali. Et je pense que c'est le drame de notre génération, et que ça, nous devons le corriger. Enlever cette mauvaise foi-là, avoir le courage de dire la vérité. Et quand la vérité est là, bon, nous ne sommes pas des idiots, nous allons marcher avec.
Benjamin Sankala, de Fraternité africaine.
Ok, enfin, je vais revenir un peu en arrière vers Mamadou Kane, qui disait la mal gouvernance et puis les dépenses faramineuses des autorités d'État. En fait, il y a paradoxe. Quelque part, on voit certaines autorités, il y a tellement de fraudes, corruption par-ci, par-là. Et de l'autre côté, on est incapable de satisfaire les revendications des syndicats. Donc, pour revenir un peu à ce dire, il faut que les gens vraiment soient honnêtes. Et de plus en plus aussi dans ce pays, nous sommes en train de s'embourber dans ce qu'on appelle le mensonge consensuel. On a le sentiment que les autorités se mentent et également les syndicats aussi se mentent.
Mauvaise foi.
Donc maintenant, il y a 2 semaines, on a assisté à la grève des enseignants du privé, non, des écoles, le promoteur d'écoles privées. Oui. 2 jours après, c'est les enseignants de l'éducation de base, mais demain, qui encore ? Finalement, qu'on mette la balle à terre. Et quant à Amadou Amène Guindo, de la CSM, qui, il y a 2 semaines, en tout cas, a réussi aussi un pari en organisant une marche, alors que la première institution était malade. Mais il n'a pas annulé sa marche, il l'a fait. Et de plus en plus, tristement, il devient célèbre. Mais quoi qu'il en soit.
C'est le point de non-retour. Ouais,
voilà, le point de non-retour. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans un pays où, aujourd'hui, ça ne va nulle part. Et maintenant, que les gens mettent les actions en place, concertées et aller vers un intérêt commun. Ça ne sert à rien, à la CSM, de faire des blocages. Alors que nous sommes aujourd'hui assistés par les organisations internationales, par la communauté internationale et d'autres également. Donc, notre mauvaise foi va faire en sorte que nous serons bloqués davantage. Donc, qui est à l'État de montrer sa bonne foi au syndicat, de comprendre la capacité financière de son pays.
Voilà. Et je voudrais juste ajouter que, justement, ces actions syndicales trouvent du répondant au niveau de la population parce que les gens sont en souffrance. Il faut qu'on le dise aussi. Voilà. Il y a un vrai mal-être aujourd'hui au Mali. Tout le monde vit la crise de l'énergie, l'électricité et l'eau. Tout le monde vit ça. Il y a personne. Hein. Par ceux qui ont la possibilité d'avoir des groupes électrogènes et des forages à haute densité chez eux, tout le monde vit cette crise-là. Les prix des denrées alimentaires augmentent chaque jour que Dieu fait. Donc je pense qu'il est important aussi que on soulage un peu la population. Je pense que toutes ces revendications, toute cette cristallisation vient du fait que les gens sont en souffrance. Et si on apporte un petit bol d'air à ces chefs de famille, à ces mères de famille qui n'arrivent vraiment plus. Il y a des milliers de familles dans ce Bamako, je ne vais même pas dans les zones rurales, dans ce Bamako qui n'ont pas un repas par jour. Il y en a des milliers. Donc il est important qu'on donne de l'air à ces gens-là, qu'on subventionne certaines choses, qu'on suit les exonérations pour que ça soit vraiment exonéré, qu'on relâche un peu la soupape pour que le peuple puisse souffler. Et peut-être que justement cette pression sociale-là va diminuer un peu, de sorte à laisser aussi un peu de mou à l'État pour qu'il puisse avancer.
Il nous reste très peu de temps. Nous allons tenter quand même d'aborder un dernier sujet. Le vous est quand même assez familier, puisque nous allons parler quand même le sujet que nous allons aborder vous est assez familier. Parce que c'est la presse que nous allons parler. La semaine de la presse, elle s'achève en principe demain. Alors, est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan ? On pose la question à vous en premier lieu. Mamadou Kane de Radio Clédou.
Bon, bilan, je voudrais qu'on soit pragmatique. Le bilan, on ne doit pas le tirer après, après cette célébration.
Pour bilan cette... de la semaine, disons.
Bon, ça va, et les thèmes étaient intéressants, etc. Après, il faut aller droit au but. C'est ça le problème ici. La presse malienne, elle est malade. Hein. Elle est malade de ces grands mots, problème de formation, précarité du métier, etc. Moi, je pense que c'est cela le vrai sujet auquel les patrons de presse doivent s'attaquer, auquel les autorités doivent s'attaquer pour que la presse soit vraiment indépendante, professionnelle. C'est très important. Dans les autres pays, on voit. Moi, je n'irai même pas loin. Au Sénégal, à côté, on voit une presse quand même... La formation y est quand même. Je dis pas que c'est les meilleurs, etc. Mais ces pays-là, ça manque. On regarde un peu les radios, il y a des chemins, quoi. Voilà. Donc, il faut vraiment être pragmatique sur ces choses-là. Je ne tire pas un bilan. Il faut qu'ils travaillent à donner.
Voilà. Quand on parle quand même de presse malade, mais je pense que le mal il a été diagnostiqué il y a assez longtemps. Le remède, ça tarde à venir. Oui, on ne sait pas pourquoi.
La mauvaise foi est toujours là. Donc, il n'y a rien à faire.
Ok, ben je dis que à la fin de cette journée, je vois ça sous forme de défi pour la presse malienne. Je crois que c'est une presse qui est en train de se battre comme elle peut avec ses moyens de bord. Je suis d'accord, il y a des insuffisances. Et comme il a dit, c'est au patron de la presse, aux autorités d'appuyer, n'est-ce pas, ces journalistes-là qui puissent vraiment pleinement jouer leur rôle et à nous journalistes aussi, vraiment de faire de notre mieux. Pour être aussi vraiment correct que possible, pour être en guillemets, voilà, honorer la profession. C'est ce défi-là que nous devons relever parce qu'il n'y a pas d'État fort sans une presse forte. Il n'y a pas de démocratie sans la presse.
Sylvia Dalméda.
Qu'ajouter à ça ? Je pense que l'essentiel a été dit. Hein. Moi, je ne tirerai pas de bilan. Je pense qu'elle a le mérite d'exister, cette Semaine nationale de la liberté de la presse. C'est la première, je pense. Et j'espère qu'elle va continuer et qu'elle va vraiment permettre à la presse malienne de réfléchir sur sa condition, sur les défis auxquels elle est confrontée, sur les solutions qu'elle peut y apporter. Parce que je pense que c'est cela. Hein. On parle de l'État. L'État-providence n'existe plus. C'est fini. À nous, maintenant, nous journalistes, de nous organiser, de créer des partenariats avec d'autres médias, il y a plein d'opportunités qui existent aujourd'hui. Utiliser les réseaux sociaux qui sont, ou Internet, qui est une opportunité extraordinaire de développement de la presse malienne. Utiliser toutes ces ressources que nous avons et que nous sous-exploitons ou que nous mal-exploitons pour avoir, comme il l'a dit, une vraie presse, c'est-à-dire une presse professionnelle, une presse qui respecte la déontologie, une presse qui est agent de développement et une presse qui permet à ces journalistes de vivre. Parce que ça suffit des journalistes qui sont payés à 50 000 francs à la fin du mois. Il faut qu'on ait des journalistes qui vivent de leur métier parce que c'est comme ça qu'on aura des jeunes qui vont avoir envie de suivre cette profession et qui vont suivre nos pas. Tant qu'on va voir des journalistes misérables, personne ne va vouloir venir et ce seront toujours les vieux de la vieille qui vont avoir la même mise sur ce métier. Nous n'allons pas avancer.
Benjamin Sangala de Fraternité Africaine.
Oui, au-delà du bilan, il y a ce qu'on appelle chaque année Reporters sans frontières, donc quand même le classement de la presse. Bon, au Mali, on a régressé, on a quand même perdu 4 à 5 places. Mais c'est que sur.
Je pense avec ça quelle importance ces classements.
Ouais, je viens. Mais je ne sais pas.
Il nous reste très peu de temps. Donc soyez très bref.
Ouais, je ne sais pas sur quelle base ils ont fait leur classement. Mais quoi que l'ensemble, c'est leur classement. Mais c'est que sur le Mali, comment a régressé. Mais deuxièmement aussi, parlant de la condition en tout cas de la presse au Mali, c'est que nous avons tellement de titres, tellement de radios. Aujourd'hui, l'audiovisuel qui est en train de grimper, les journaux en ligne, tout ça. Mais quelque part aussi.
On va finir quelque part.
Il y a ce qui manque, c'est les conditions de travail. Ouais. Vous savez, les journaux se créent aujourd'hui au Mali sur fond de frustration, la plupart. Sur fond de frustration. Et maintenant aussi, ce qui se crée. Il part quand même à partir d'un conflit et il n'arrive même pas à honorer les mêmes engagements qu'il a quand même fait partie de leur journaux d'origine. Donc, deuxièmement aussi, de plus en plus, le média malien devient de plus en plus professionnel aujourd'hui. Il faut le comprendre. Voilà. C'est plus comme il y a 2 ans.
Bravo à nous.
Alors, voilà. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là puisque le temps est parti est déjà fini. Il reste donc à remercier nos invités qui sont donc Célia Dalméda du Journal du Mali, Benjamin Sangala de Fraternité Africaine, Mahamadou Kano de Radio Clédou, Amandegué Sagara du Journal Soloni. Mise en onde Mamadou Ouattara, régie vidéo Nuhundjire, réalisation Ousmane Djadje Touré, présentation Seydou Fomba. On se retrouve dans une semaine pour un autre forum de la presse. Bon week-end.
Merci.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Niberi.
Halo Dumandi.
Chien Niberi. Sigi Kafoba.